Bonjour, bienvenue dans notre émission, dans notre musée imaginaire pour cette nouvelle saison. Et nous allons varier le contenu de l'émission. D'une part, continuité dans la rencontre avec un peintre, un sculpteur, un architecte, avec une analyse d'une œuvre. Et puis aussi, d'autre part, d'aller à la rencontre de personnes d'horizons différents pour connaître un petit peu quelle est la place de l'art dans leur vie et leur souhait dans cette continuité. Et nous irons donc rencontrer des personnes du milieu rural, du milieu artistique. Monseigneur l'archevêque de Toulouse m'a promis de venir à l'émission, malgré son emploi du temps extrêmement chargé. Et enfin, un troisième aspect, chronique d'un récit de voyage qui va alimenter notre imaginaire. Voilà pour cette nouvelle saison et nous allons commencer aujourd'hui par une émission découverte et conquête de l'Amérique en plusieurs parties. C'est un récit, une chronique et ce n'est pas un cours d'histoire. Alors, à la fin du XVe siècle, la découverte de terres au-delà de la mer Océane, entre guillemets, met l'Espagne et l'Europe, à travers les peuples de ces contrées, appelés à tort les Indiens, à penser une inattendue altérité, cette capacité à reconnaître et à accepter l'autre en tant qu'être différent de soi, qu'il s'agisse de ses origines, de ses idées ou de sa culture. Et comment les sociétés européennes se sont interrogées par rapport aux autres avec un grand A. Certes, la question de la diversité des peuples est une question très ancienne et elle n'est jamais allée de soi. L'anthropologie, quant à elle, est toujours en prise avec deux pôles, d'une part l'universalité de l'homme et d'autre part l'autre pôle que l'homme est divers. L'Espagne se retrouve donc en première ligne dans cette confrontation avec l'autre. D'une part, l'aventure maritime se place dans le prolongement de la reconquête. En 1492, c'est la fin de la Reconquista, chute du royaume de Grenade et la découverte des premières terres par Christophe Colomb. D'autre part, l'Europe a besoin de produits exotiques, comme les épices, mais pas seulement, et la route d'Est par voie de terre est coupée par les Turcs qui ont pris Constantinople en 1453. La route de Marco Polo n'est plus possible. Donc, deux possibilités pour atteindre les Indes, soit par l'Est, par la mer, en contournant l'Afrique, soit par la route de l'Ouest, mais c'est un océan inconnu. À cela s'ajoute une terrible soif d'or. L'Espagne et le Portugal sont des pays rivaux pour la maîtrise des mers et la découverte du monde. Le Portugal ayant déjà une meilleure connaissance géographique et de la navigation, le pape en 1455 va faire un partage. Il va attribuer ainsi les Canaries à l'Espagne, mais le Portugal aura l'intégralité des côtes africaines. Vasco de Gama, grand navigateur portugais, trouve en 1497 la route des Indes. Qu'est-ce que la sérendipité ? La sérendipité, c'est le fait de découvrir quelque chose par hasard alors que l'on recherche autre chose. La découverte de l'Amérique commence donc par une énorme maladresse et comment les sociétés européennes se sont-elles interrogées par rapport aux autres ? La question de la diversité des peuples est une question très ancienne et elle n'est jamais allée de soi. La conquête de l'Amérique commence par une énorme maladresse. Qu'est-ce qu'on fait de ces peuples ? La conquête du Mexique est la conquête la plus extraordinaire, elle dépasse la condition humaine. Cette période de la Renaissance est à la fois une période donc de découverte et une période de conquête, avec trois personnages centraux, trois facettes du rapport avec le Nouveau Monde et par rapport aux Amérindiens, Christophe Colomb, Hernán Cortés et Bartolomé de Las Casas. Colomb, c'est la figure archétypale du découvreur, Cortés, c'est la figure archétypale du conquistador, et Bartolomé de Las Casas, c'est le premier défenseur des Indiens. Alors Christophe Colomb, 1451-1506, premier point, lieu et année de naissance, point d'interrogation, on ne sait pas, peut-être 1447-1451, il meurt en 1506. Au début, partie donc obscure de sa vie, beaucoup d'angles morts. Dans sa première biographie, faite par son fils Fernando, il s'est plu à brouiller les pistes et son deuxième fils, en écrivant une autre bibliographie de son père, a essayé quant à lui de sculpter la personnalité de celui-ci. Probablement naissance à Gênes, qui est alors une principauté indépendante. Deuxième point obscur, mais capital, il semblerait qu'il ait des origines juives. Et c'est important pour la suite. Pourquoi ? Parce qu'il va se retrouver en Espagne comme étant juif converti au catholicisme. Et l'Inquisition traquait tous ces sujets juifs convertis au catholicisme, ayant par rapport à ces convertis un aspect un petit peu de suspicion. L'argument particulier, être juif converti au catholicisme, va entraîner pour les convertis d'une manière de rajouter encore à la conversion au catholicisme. Ainsi, Christophe Colomb va s'appeler Christophe, qui signifie le porteur de Dieu. Il va signer tous les documents Christo Ferens, et en latin, celui qui porte le Christ. Et c'est avec cette inspiration, mais aussi une forme de mysticisme, qui va se signaler au peuple qui va découvrir. C'est un missionnaire envoyé par le Christ. Le troisième point, son père est artisan, tisserand, et Colomb fera 4 voyages au Nouveau Monde, 1492-1493, 93-96, 1498 et enfin 1502-1504. Il navigue dès son jeune âge, il se taille une expérience en naviguant en Méditerranée, mais aussi le long des côtes africaines jusqu'au méridien l'Équateur, et peut-être même jusqu'en Islande. L'autre aspect, c'est un homme instruit, il a soif de connaissances, mais son savoir est celui d'un autodidacte. Il est friand de récits de voyage, en particulier le voyage de Marco Polo. Il va d'abord au Portugal, le pays est ambitieux, et il voit le roi du Portugal qui ne donnera pas suite à sa demande. En 1479, premier mariage avec la fille du gouverneur de Madère. Puis, 1482-1492, retour en Espagne, il va essayer de convaincre les rois catholiques, mais il va solliciter aussi à nouveau le roi du Portugal, d'Espagne, d'Angleterre, de France, et finalement les rois catholiques, à la troisième rencontre, acceptent en 1492 de donner corps à son projet. Entre-temps, il va continuer à s'instruire, il est oisif, on le dit illuminé, mystique, il se sent investi d'une mission, celle de prolonger le rayonnement non pas seulement temporel de l'Espagne, mais aussi spirituel. Sur le plan géographique, on est resté avec des cartes anciennes, exemple Ptolémée. Mais on sait que la Terre est ronde, mais on n'en est pas sûr. On pense qu'elle est le centre de l'univers. Certains penseurs grecs, en 550 avant Jésus-Christ, l'avaient pensé. Copernic, au début du XVIe siècle, montre le mouvement des planètes. Thèse amplifiée par Galilée en 1610, la Terre tourne autour du Soleil et serait le même. Et ce n'est que 350 ans plus tard que l'Église catholique va réhabiliter Galilée, condamné par l'Inquisition en 1633. Et la question, est-ce qu'il est possible de franchir l'océan ? Le premier globe terrestre est fait par un Allemand, Behrein, il dessine l'Europe et plus loin, le contour de la Chine en 1492. La mer, dans sa largeur, est sous-estimée, avec au milieu une grande île appelée Cipango, le Japon. Ainsi, en 1522, Magellan fait le tour du monde, il meurt aux Philippines, mais le reste de l'équipage continue et boucle le tour du monde. Dans une deuxième partie, nous évoquerons donc dans quel contexte idéologique, politique, économique se fera cette découverte et cette conquête qui va dépasser la condition humaine. Et je voudrais terminer par José Maria de Heredia pour son poème sur les conquérants. Et je vais citer les premiers vers. Comme un vol de gerfaux hors du charnier natal, fatigués de porter leur misère hautaine, de Palos, de Moguer, routiers et capitaines partaient, ivres d'un rêve héroïque et brutal. Ils allaient conquérir le fabuleux métal que Cipango mûrit dans ses mines lointaines. Bonne journée à vous et à la prochaine fois.